Bonjour ma Valentine, voilà un conte que tu connais peut-être déjà, Escabi et le Tartareau, que j'ai souvent raconté à Duyac. J'aime beaucoup ce conte qui se passe au Pays Basque. Te souviens-tu que tu es venue au Pays Basque pour notre mariage avec Guillaume? Je te laisse le découvrir et puis tu pourras me dire ce que tu en as pensé. Merci, au revoir. Connaissez-vous les Tartareaux? Peut-être bien que non. Mais si jamais vous visitez notre Pays Basque, demandez voir un peu à la première personne que vous rencontrerez. Il y a fort à parier qu'elle vous répondra. Les Tartareaux, qui sont couverts de poils et qui n'ont qu'un œil au milieu du front. Eh bien, mon Dieu, si j'en ai entendu parler, ma petite demoiselle. C'est qu'en effet, il y a bien longtemps, les Tartareaux ont élu domicile au Pays Basque. Ce qui prouve qu'ils ont bon goût, mais qui ne fait pas toujours l'affaire des gens de chez nous. Car ils sont forts comme des ours, affamés comme des loups, et plus d'un berger des Pyrénées s'est vu chipper un mouton ou deux à son nez et à sa barbe par un Tartareau qui n'avait pas déjeuné. Et puis, ils sont friands de chair humaine à l'occasion. Ils font bien un peu peur aux hommes, mais point trop, car ils ne sont pas si méchants au fond, et ne demanderaient pas mieux que d'être amis avec eux. On dit même que plus d'un Tartareau a demandé une basquaise en mariage. Mais en vain, aucune fille de Guétari, de Salabéride, ni d'ailleurs n'a voulu d'un Tartareau pour mari. Pensez donc, ils sont trop laids, tout couverts de poils qu'ils sont avec leur œil unique au milieu du front. Et puis, ils sont vraiment trop bêtes, et malgré leur taille et leur force prodigieuse, ils ne font pas le poids devant la malice de nos filles et de nos gars du Pays Basque. Et vous ne serez pas chez nous depuis 3 jours qu'on vous aura raconté plusieurs fois comment, par sa ruse et son sang-froid, le petit Escabi vint à bout d'un grand Tartareau. Il y avait une fois, dans les environs d'Istaritz, une veuve nommée Estéferella, qui vivait seule avec son fils unique, un gars déluré qu'on appelait Escabi. Ce n'étaient pas des gens riches, ça, non. Estéferella avait beau filer toute la journée et une bonne partie de la nuit, il mangeait de la bouillie de maïs plus souvent que du pain blanc. Aussi, l'année de ses 15 ans, à la Saint-Jean d'été, Escabi prit une grande résolution. « Maman, voilà assez longtemps que vous peinez pour me nourrir. Je pars. Je suis solide. Je trouverai bien à me louer. »« Comment, Escabi, mon fils, tu veux abandonner ta mère, qui n'a plus que toi au monde? Et qui donc me ramassera des fagots quand l'hiver sera venu ?»« Maman, laissez-moi partir chercher fortune. Qu'as-tu besoin de quitter le pays pour aller courir Dieu sait où? C'est encore chez soi qu'on est le mieux, va. À Tseri, au Tseri, comme on dit chez nous. Pays d'étrangers, pays de loups. » Mais Escabi, qui commençait à s'ennuyer ferme dans leur tout petit village, insista tant et si bien, « Et ma bonne petite maman par-ci, et ma chère petite maman par-là, » qu'à la Saint-Michel, Estéferella rentra ses larmes et lui prépara son baluchon. Et voilà notre Escabi sur les grands chemins, tout triste de quitter sa mère, tout heureux de partir à l'aventure. « Marche, marche, Escabi, mon fils, marche aujourd'hui, marche demain. » À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Et Escabi marchait, marchait. Des jours, des semaines passèrent. À force de marcher, Escabi arriva devant une grande ville qui lui parut enfin digne de lui. Et comme il n'avait pas froid aux yeux, en vrai basque qu'il était, il alla droit au palais du roi demander si, par hasard, on n'avait pas besoin de ses services. On cherchait justement un jardinier. Bien sûr, Escabi avait surtout gardé les chèvres jusque-là, mais il n'avait pas les yeux dans sa poche, ni les 2 pieds dans le même sabot, et il eut vite fait d'apprendre le métier. Or, le roi avait une fille, et comme Escabi n'était pas vilain garçon, ma foi, la princesse se mit à se promener dans le jardin plus souvent, puis encore plus souvent que d'habitude. Si bien que le prince Erua, qui était venu d'un pays voisin pour faire sa cour à la princesse, en devint vert de jalousie. Il n'eut bientôt plus qu'une idée en tête. Comment diable se débarrasser de cet insolent Escabi? Et à force de réfléchir, il trouva. Il suffisait d'envoyer le petit jardinier chez le Tartareau qui, dit-on, habitait tout en haut d'une montagne à l'autre bout du royaume. Sûrement devant ce Tartareau tout couvert de poils avec son œil unique au milieu de front, Escabi perdrait bien vite son air fanfaron. Et Erua alla trouver le roi. Sire, le roi, votre jardinier que la princesse trouve tant à son goût, savez-vous ce qu'il a dit? Il s'est vanté de pouvoir vous ramener la mule au sabot d'or du Tartaro, celle qui fait 7 lieues à chaque pas. En entendant cela, le roi s'écria « Ah, par exemple, eh bien, s'il a dit ça, il le fera !» Le roi fit appeler Escabi. « Comment ? On dit que tu t'es vanté de pouvoir me ramener la mule du Tartaro qui fait 7 lieues à chaque pas ? Moi, sire le roi, jamais de la vie ! Que tu t'en sois vanté ou non, il faut que tu me la ramènes, ou je te ferai jeter dans un cul de basse fosse. » « C'est bon, répondit Escabi. Si vous me procurez tout ce dont j'ai besoin, je veux bien tenter l'aventure. » Il demanda un tirola d'argent, un solide couteau comme les gars du Pays Basque en portent à leur ceinture, et une bourse pleine de louis d'or. Puis il se mit en route. « Marche, marche, Escabi, mon fils. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. » Escabi marchait, marchait. Un beau matin, il fut arrêté par une profonde rivière. De l'autre côté, on distinguait nettement la terrible montagne. Il appela le passeur qui lui fit traverser l'eau moyennant un de ses louis d'or. Et il le prévint qu'à son retour, il aurait peut-être une charge très lourde avec lui. Une dernière journée de marche et Escabi frappait enfin à la porte du Tartaro. C'était une petite vieille courbée, toute ridée, qui lui ouvrit. À sa vue, elle levait les bras au ciel. « Fuyez, fuyez plus vite, mon enfant, car mon fils est un Tartaro, tout couvert de poils, avec un seul œil au milieu du front. Il reconnaît l'odeur de chrétien à plus d'une lieue. Il ne fera qu'une bouchée d'un gringalet comme vous. » Mais il en fallait bien davantage pour effrayer notre Escabi. « Bah, qu'il me mange ici, qu'il me mange ailleurs, quelle différence !» Alors la vieille lui indiqua, non loin de là, un gros fourré de fougères. Escabi alla s'y cacher. Il était temps. Le Tartaro arrivait, soufflant comme un phoque, grinçant des dents à vous donner la chair de poule.
« Mère, mère, je sens l'odeur de chrétien !»«
Mais non, mon fils, tu te trompes. C'est le mouton que j'ai mis à la broche pour ton dîner. »
« Je sens l'odeur de chrétien, vous dis-je. Il y a quelqu'un de caché par ici. Il faut que je le trouve. »
Et le Tartaro se mit à fouiner dans tous les recoins de la cour. Il s'approcha des fougères et se mit à fourrager dedans. Pensez si Escabi se recroquevillait tout au fond. Enfin, le Tartaro dut se lasser, car il fit demi-tour en grommelant et rentra dans la cuisine, où il se mit à manger et à boire comme un trou. Doucement, en catimini, Escabi sortit de sa cachette. Tout seulement, d'un seul coup de son couteau d'argent, il coupa une immense brassée de fougères et doucement, à pas de loup, il se redirigea vers l'écurie du Tartaro. La mule au sabot d'or, qui fait 7 lieues à chaque pas, portait au cou une cloche plus grosse que celle de l'église de Saint-Jean-de-Luz. De quoi alerter toute la contrée au moindre de ses mouvements. Mais Escabi fourra la cloche de fougère pour l'empêcher de sonner, sauta sur le dos de la mule et hop, Harry Harry Mandoak, Harry Hardy Hardy petite mule. Au premier pas que fit l'animal, ils étaient déjà à 7 lieues de là. Au bord de la rivière, il retrouva le passeur et à eux deux, tant bien que mal, ils firent monter la mule sur le bateau. Mais les fougères étaient tombées en cours de route et la cloche de la mule sonnait maintenant à toute volée. Aussi, comme le bateau atteignait l'autre rive, ils virent arriver le Tartaro, en chemise, courant et gesticulant, criant à Escabi de lui rendre sa mule, qui lui donnerait en échange tout ce qu'il voulait. Mais Escabi ne fit qu'en rire. Et voilà le premier tour qu'Escabi joue au Tartaro. Et le Tartaro, furieux, dut repartir chez lui à pied, menaçant Escabi du poing.
« Tu ne perds rien pour attendre, va !» « Je te retrouverai, petit ver de terre, ombre de mes moustaches !»
Escabi donna 10 louis d'or au passeur et partit à fond de train en direction du palais. Tous les habitants accouraient sur son passage. « Ah, mes amis, quel spectacle !» Le roi et la princesse le regardaient venir du haut de la tour. « Quelle jolie mule !» se disait le roi. « Quel beau garçon !» se disait la princesse. Je vous laisse à penser quelle fête on leur fit à tous les deux. Mais le prince Erua, lui, en perdit le boire et le manger. Il alla trouver le roi. « Sire le roi, votre jardinier, que la princesse trouve tant à son goût.
Savez-vous ce qu'il a dit ?
Il s'est vanté de pouvoir vous rapporter le diamant du Tartaro, qui est si lumineux qu'il éclaire à 7 lieues à la ronde.
Ah, par exemple ? Eh bien, s'il l'a dit, il le fera.
Le roi fit appeler Escabi.
Comment ? On dit que tu t'es vanté de pouvoir me rapporter le diamant du Tartaro qui éclaire à 7 lieues à la ronde ?
Moi, sire le roi, jamais de la vie.
Que tu t'en sois vanté ou non, il faut que tu ailles me le chercher, ou je te ferai pendre haut et court à la plus haute tour de mon château.
C'est bon, répondit Escabi. Si vous me procurez tout ce dont j'ai besoin, je veux bien tenter l'aventure. Faites-moi donner un petit sac de sel, un autre de louis d'or, et prêtez-moi votre mule qui fait 7 lieues à chaque pas. Et Escabi se mit en route. Cette fois, grâce à la mule, il arriva bien vite à la rivière. Il donna 100 louis d'or aux passeurs pour les faire traverser lui et sa mule, et lui en promit autant à leur retour. Puis il se dirigea vers la montagne, droit à la maison du Tartaro. C'est la vieille qui vient lui ouvrir.
« Fuis, fuis au plus vite, mon enfant, car mon fils va bientôt rentrer. Il est furieux contre toi et tu croquerais bien volontiers. »«
Bah, qu'il me mange ici et qu'il me mange ailleurs, quelle différence !» Et Escabi alla se cacher avec sa mule dans les fougères. Le Tartaro arriva bientôt, soufflant comme un phoque et grinçant des dents.
« Oh, mère, je sens l'odeur de chrétien !»«
Mais non, mon fils, tu te trompes. C'est le cochon que j'ai mis au saloir pour ton souper de demain. En attendant, viens manger. J'ai un plein chaudron de bouillie qui t'attend bien au chaud dans la cheminée. »
Le Tartaro, qui mourait de faim, se laissa entraîner à contre-cœur dans la cuisine. Escabi sortit alors de sa cachette, grimpa sur le toit de la maison, silencieux comme un chat, et, par la cheminée, vida son petit sac de sel droit dans le chaudron d'eau bouillie. Quand le Tartaro eut goûté à la bouillie, il se mit à tousser, à cracher, et fit une horrible grimace.
« Pouah, que c'est mauvais ! Vous avez trop salé la bouillie, la mère !»«
Mais non, pauvre fou, je n'ai pas mis de sel du tout.
Cette bouillie est immangeable ! À boire ! Au secours ! De l'eau ! De l'eau !»
« Il n'y a plus une goutte d'eau dans la maison. La dernière cruche m'a servi à faire cuire la bouillie. »«
Vite, donnez-moi mes seaux que j'aille à la fontaine. »«
Mais il fait nuit noire, pauvre vieux fou, tu n'y verras goutte. »
Alors le Tartaro alla chercher sous son oreiller le diamant lumineux qui éclaire à 7 lieues à la ronde. Il l'accrocha au toit de sa maison afin d'y voir en chemin. Aussitôt, on y vit comme en plein jour. Escabi, qui, vous le pensez bien, s'était fait tout petit derrière la cheminée, s'empora du diamant, et hop, d'un saut il était à terre, d'un autre saut il avait rejoint sa mule. Alors il mit le diamant dans sa poche. Aussitôt, il fit de nouveau noir comme dans un four. Le Tartaro, qui venait de charger ses seaux pleins d'eau sur les épaules, en tomba à la renverse de surprise. Il se releva tout mouillé, se mit à courir dans le noir, se cognant dans les arbres, tombant encore. Escabi éclata de rire.
« Et voilà le deuxième tour qu'Escabi joue au Tartaro !»
À ces mots, le Tartaro se mit à jurer comme un muletier des Pyrénées.
« Tu ne perds rien pour attendre, va ! Je te retrouverai, petit ver de terre, ombre de mes moustaches !»
Mais Escabi frappa la mule du blé et « Arré, arré, mandoac !» Au premier pas qu'elle fit, elle était déjà à 7 lieues de là. Il arriva au palais du roi au milieu de la nuit. Mais grâce au diamant du Tartaro qu'il tenait dans sa main ouverte, on y voyait comme en plein jour. Tous les habitants, en chemise et en bonnet de nuit, sur le pas de leur porte, le regardaient passer, émerveillés. De la plus haute tour de leur palais, le roi et la princesse le contemplaient.
« Quelle belle mule ! Quel riche diamant ! » se disait le roi.
« Quelle fière mine ! Quel air « Avenant !» se disait la princesse.
Mais le prince Eurua, lui, faillit en étouffer de rage. Un matin que la princesse s'était promenée encore plus longtemps que d'habitude dans le jardin, il alla trouver le roi.
« Sire le roi, votre jardinier, que la princesse trouve tant à son goût, savez-vous ce qu'il a dit ? Il s'est vanté de pouvoir vous ramener le Tartaro en personne !» qui est tout couvert de tout poil, et n'a qu'un œil au milieu du front.
Ah, par exemple ! Eh bien, s'il a dit ça, il le fera.
Et le roi fit appeler Escabi.
« On dit que tu t'es vanté de pouvoir me ramener le Tartaron en personne, qui est tout couvert de poils et n'a qu'un œil au milieu du front. »«
Moi, sire le roi ? » ?»«
Jamais de la vie. Que tu t'en sois vanté ou non, il faut que tu ailles me le chercher, ou je te ferai brûler tout vif dans un sang de fagot. »
C'est bon, répondit Escabi. Si vous me procurez tout ce dont j'ai besoin, je veux bien tenter l'aventure. » Et Escabi demanda qu'on lui fabrique des habits de prince à sa taille et un chariot d'acier dont les murs soient épais d'une toise. Ainsi équipé, il s'en alla frapper tout droit à la porte du Tartaron. Celui-ci, à la vue de notre Escabi tout habillé de soie et de velours, crut qu'il avait affaire au roi en personne.
« Mon bon Tartaro, dit Escabi, vous n'auriez pas vu Escabi par hasard. On m'a dit qu'il était chez vous. Je suis venu l'arrêter car il m'a joué un tour pendable. »«
Pas plus qu'à moi, toujours, reprit le Tartaro. Pensez donc, il m'a volé ma mule au sabot d'or, qui fait 7 lieues à chaque pas, mon diamant lumineux qui éclaire à 7 lieues à la ronde. Et par-dessus le marché, il m'a fait attraper un rhume et manger de la bouillie trop salée. « Attendez-moi donc, moi aussi que je le cherche. »«
Mais mon bon Tartaro, vous m'avez pas l'air bien fort pour courir après cet Escabi, qui est, paraît-il, sans pareil. »«
Oh, il n'est pas si fort qu'on le dit. Je n'aurai pas besoin de chariot pour l'attraper, moi. »«
Je ne sais pas si mon chariot sera assez solide pour le retenir, » reprit le roi.
« Écoutez, proposa le Tartaro, je vais l'essayer, votre chariot. Ouvrez la porte et je vais me coucher dedans. Je verrai bien s'il est assez solide. »
Le Tartaro monta dans le chariot et la porte se referma. Il appuya de toutes ses forces contre les parois qui résistèrent.
« Forcez donc, mon bon Tartaro, forcez donc encore un peu pour voir si mon chariot peut résister à Escabi. »
Vous pouvez être tranquille, monsieur le roi. J'y suis allé de toutes mes forces. « Pas de danger qu'Escabi s'en échappe. Il n'est pas si fort que moi. Ouvrez la porte maintenant. »
Mais Escabi éclata de rire. « Et voilà le troisième tour qu'Escabi joue au Tartaro. » À ces mots, le Tartaro se mit à jurer comme un joueur de pelote de Navarre.
« Oh, c'est encore toi, petit ver de terre, ombre de mes moustaches. Mais tu ne perds rien pour attendre, va. »
Mais Escabi fouetta ses chevaux et partit à fond de train vers le palais du roi, entraînant son chariot de fer dans lequel le Tartaro tempêtait et faisait un raffut de tous les diables. Je vous laisse à penser quel accueil on leur fit.
« Escabi a attrapé le Tartaro en personne, qui est tout couvert de poils et qui n'a qu'un œil au milieu du front. »
Le roi fit tirer sur le prisonnier à coups de boulets de canon, mais il les attrapait au passage et les envoyait comme de simples balles de ping-pong. On décida alors de le garder enfermé dans son chariot d'acier, en attendant de voir ce qu'on ferait de lui. Les habitants du royaume, invités à défiler devant lui, ne se lassaient pas de contempler le terrible Tartaro. Sauf la princesse qui, elle, n'avait d'yeux que pour Escabi, toujours vêtue de ses habits de prince. Et comme il l'avait bien mérité, on lui donna la princesse en mariage. Quant au prince Erua, il quitta la ville sans dire au revoir à personne et s'en retourna dans son pays, où il est encore, je pense, à moins que de dépit, il ne soit mort en chemin. Avec la mule au sabot d'or qui fait 7 lieues à chaque pas, Escabi envoya chercher sa mère Estéphérella, qui était restée au pays. Et on célébra les noces d'Escabi et de la princesse, qui durèrent 7 jours entiers. Ah, mes amis, quel festin! Rien n'y manquait, ni bécasse, ni grelinotte, ni griffes en papillote, ni passepain, ni vacaron. Ah, on y mangeait mieux encore que chez moi, qui n'est que du pain noir et des bouillies de maïs à me mettre sous la dent. Chirichti, Mirichti, mon petit conte est fini. C'était Escabi et le Tartaro, conté par Pierre Bertrand dans les environs de Saint-Jean-de-Luz, issu du livre de Jean Le Ténuet et autres contes populaires français de Michel Simonsen.